Chapitre 24e. Violence. Éloquence de François. Prison. Dures épreuves. Remords et aveux. Surprise agréable. Héroïsme de Fignolet. Évasion. Comme notre appétit ne laissait pas que d'être fort vif aussi, nous ne nous fîmes pas répéter cette invitation, et nous nous disposions, après avoir jeté un dernier regard d'espérance à l'horizon et un autre de reconnaissance vers le ciel, à suivre Comballot, lorsqu'une dizaine d'Arabes, armés de sabres recourbés et de lances, sortant tout à coup de derrière une cahute qui nous les cachait, se précipitèrent sur nous en poussant des cris furieux, nous accablèrent de coups et enfin, avant que nous eussions le temps de nous reconnaître, nous terrassèrent et nous attachèrent les mains. « Pourquoi cette violence ? » demandai-je aux Arabes, lorsque, revenu un peu de la surprise que m'avait causée cette agression si brutale et si inattendue, je pus enfin parler. « Tu adresseras cette question au gouverneur Yakout lorsque tu te trouveras en sa présence, » me répondit un Arabe. « Quant à nous, nous ne savons rien sinon qu'il nous a donné l'ordre de vous arrêter mort ou vif, et que nous avons obéi. »« Au diable, lieutenant, » me dit Comballot en se grattant l'oreille. Il s'agit de notre mascarade et des dragées de carnaval que nous avons envoyées aux soldats de la douane de Zanzibar. Ça va mal. Après tout, quant à moi, ça m'est bien égal que l'on me pende. Je suis un couillon qui ne mérite pas autre chose. Toi, mon bon François, m'écriai-je. Ne m'appelez pas bon, lieutenant, me dit-il en m'interrompant. Ça me fait de la peine d'entendre traiter aussi bien un misérable, et je le répète, un malheureux de mon espèce. Ah, si vous saviez tout. Vous me mépriseriez, vous me maudiriez. Car voyez-vous, c'est moi qui suis la cause de la perte de la Doris. J'allais interroger François, mais les Arabes nous séparèrent alors les uns des autres, et nous faisant marcher devant eux, interrompirent ma conversation avec Comballot. Un quart d'heure plus tard, nous étions sur la route de Zanzibar. Quant à Fignolet, grâce à son amour pour les œufs de tortue, il était resté en liberté. Il était à peu près 11 heures lorsque nous fîmes notre entrée à Zanzibar. Un rassemblement considérable d'Arabes se forma aussitôt autour de nous et nous accompagna, en nous accablant d'imprécations, à travers la ville, jusqu'à la demeure du gouverneur Yakout. Cet important personnage, assis sur un divan crasseux et dont la forme étrange prouvait qu'il était composé de plusieurs meubles divers, nous reçut avec un air courroucé et triomphant tout à la fois de fort mauvais augure. « Eh bien, chien, nous dit-il, « le prophète, qui protège les vrais croyants, vous a donc livré entre mes mains ?»« Quel mensonge allez-vous inventer pour vous défendre ? De quelle façon comptez-vous expliquer votre résistance à mes ordres ? Parlez, je veux bien consentir à vous écouter. »« Voulez-vous me permettre, lieutenant, de répondre à ce farceur-là ? » me demanda Comballot, qui déchirait l'arabe d'une manière déplorable. « Oui, Comballot, mais pas d'imprudence. Ne craignez rien. » Je serai plein de finesse, vous allez voir. » Comballot, après m'avoir fait cette réponse, se retourna vivement vers Yakout et le regardant bien en face. « Illustre gouverneur, » lui dit-il par l'intermédiaire de l'interprète arabe. Bien entendu, car malgré sa jactance, il n'aurait pu articuler intelligiblement 10 mots de sa harangue. « Un gros turban comme vous doit être un malin et un éduqué qui comprend à demi les choses, mais ça ne fait rien. » J'aime mieux vous lâcher les mots tout entiers afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Ça ne sera pas long. Vous nous avez mis des douaniers à bord et vos douaniers se sont endormis. À qui la faute ? Nous, honnêtes et bons garçons, nous avons eu la bonté de ne pas les réveiller pendant notre appareillage. Très bien. Seulement, comme nous ne voulions pas les emmener avec nous, vu que ça les aurait probablement contrariés, nous avons été assez généreux pour vous les renvoyer. De mieux en mieux. Alors qu'est-ce que vous avez ? Vous avez lancé après nous une troupe de chenapans que nous avons été obligés de canonner. Tout cela me semble clair comme le jour. Je ne vois pas ce que vous pouvez trouver à y redire. Aujourd'hui que nous avons fait naufrage, il ne doit plus être question de ces vieilles histoires. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de compatir à notre malheur et de nous donner le moyen de subsister jusqu'à ce que nous puissions nous embarquer sur un navire européen. À présent, si, prenant avantage de notre infortune, vous voulez nous vexer, eh bien, alors, illustre gouverneur, permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, d'ajouter que vous n'êtes pas autre chose qu'une affreuse canaille. » Comballot, après ce beau discours, s'adressant à nous, « J'espère, messieurs, dit-il d'un air satisfait, que si cet animal-là n'est pas content, il n'y a pas de ma faute. Je l'ai un peu promptement flatté. » Hélas, le naïf François avait trop compté sur l'effet de son éloquence, À voir le méchant et haineux sourire de Yakout, je compris que notre sort était irrévocablement fixé dans son esprit. « Chien !» nous répondit-il après un moment de silence, afin de jouir plus longtemps de notre inquiétude. « Tout le sang immonde qui coule dans vos veines ne pourra jamais racheter une seule goutte de celui que vous avez versé. Si d'ici à 5 jours vous ne me payez pas une rançon de 5 000 piastres, 25 000 francs, vous serez décapité. Allez !» Une fois cette sentence prononcée, les espèces de soldats qui nous accompagnaient nous poussèrent brutalement à coups de bois de lance sans nous permettre d'ajouter un seul mot pour notre défense. Je ne parlerai pas des insultes que nous eûmes à subir pendant ce nouveau trajet à travers la ville. Les Arabes furent impitoyables pour nous et nous firent boire l'humiliation jusqu'à la lie. Après 10 minutes d'une marche qu'elle eut soin d'allonger par d'inutiles détours, afin de bien donner le temps à la foule de nous injurier tout à son aise, notre escorte s'arrêta devant une grande tour ronde et isolée, construite en briques rouges et située en dehors de la ville, à côté d'un minaret qui s'élevait devant la mer, sur le bord de la plage. C'était la prison. Ce bâtiment, comme presque toutes les maisons de Zanzibar, manquait d'escaliers. Une butte de terre battue qui atteignait au premier étage y donnait accès. Le pauvre François, fort grièvement blessé à la jambe, eut toutes les peines du monde à escalader cette espèce de monticule. Les Arabes qui marchaient à ses côtés et derrière lui le frappèrent brutalement plusieurs fois en le voyant trébucher. Combalot, les dents serrées et le visage blême de souffrance et de fureur, ne poussa ni un cri ni une plainte. Seulement, il murmura 5 ou 6 fois le mot « canaille » avec une énergie concentrée qui montrait que si jamais un Arabe lui tombait sous la main, il passerait un moment désagréable avec lui. Une fois que les Arabes, après nous avoir jetés, pour ainsi dire, dans l'intérieur de la tour, se furent retirés en refermant avec soin l'énorme porte ou fenêtre massive par où nous venions de passer, nous fûmes quelque temps, tant l'endroit où nous nous trouvions était obscur, avant de pouvoir distinguer les objets qui nous entouraient. Enfin, lorsque nos yeux furent plus habitués à l'obscurité, nous vîmes que notre prison ne nous offrait pour toute ressource que des murs en briques. Pas une natte, pas un ustensile, pas même une cruche d'eau ne s'y trouvait. Or, si le lecteur se rappelle que nous allions justement déjeuner lorsque notre arrestation eut lieu, et que par conséquent nous étions à jeun depuis la veille, il comprendra sans peine ce que nous eûmes à souffrir jusqu'au lendemain matin, où les Arabes vinrent seulement pour la première fois nous apporter un peu d'eau et de riz. Un tourment, et ce n'était pas le moindre de tous ceux que nous endurions, se joignait encore à ces privations. C'était celui de l'incertitude où nous étions. L'Arabe qui vint nous apporter nos faibles provisions ne voulut pas, malgré nos supplications et nos prières, répondre à une seule de nos questions. Il se contenta seulement de nous regarder en souriant d'une façon ironique et que nous interprétâmes comme un mauvais présage pour notre avenir. Le capitaine Liard, dont malgré tous nos malheurs nous respections toujours le grade et l'autorité, fut chargé de la distribution de quelques poignées de riz que l'on venait de nous donner. Il s'acquitta de ce soin avec beaucoup d'impartialité et de justice. « Merci, capitaine, lui dit Combalot, lorsque M. Liard lui présenta sa ration. Je ne mange pas. Vous pouvez reporter ma part à la masse. Es-tu donc malade, mon pauvre François ? Malade, oui, je le suis, c'est vrai. Mais ce n'est pas là ce qui m'empêche d'accepter ma ration, car je meurs de faim. Eh bien alors, quel est le motif ? Ah, capitaine, ne m'interrogez pas, je vous en supplie. Si je répondais à vos questions, vous finiriez par m'arracher la vérité, et si vous saviez tout, vous me mépriseriez comme le dernier des hommes. Pas un de vous ne voudrait plus toucher ma main. Tu es fou, François. Allons, laisse là ton projet de jeune forcé et prends ta part de riz. Jamais, capitaine, jamais. C'est bien le moins qu'après vous avoir causé à vous tous tant d'embarras, je me punisse moi-même. Mais assez causé. Je vais trop loin. Suffit. François, malgré nos prières, resta inébranlable dans son étrange résolution. Et quoiqu'il fût facile de deviner, aux regards envieux qu'il jetait malgré lui sur les maigres pitances que nous dévorions, la tentation violente qu'il éprouvait de nous imiter et la torture morale qu'il subissait, il nous laissa achever notre repas sans y prendre part. Cette conduite inconcevable m'avait vivement intrigué, et je me promis d'en avoir l'éclaircissement. « François, lui dis-je quelques heures plus tard, en allant m'asseoir près de l'endroit où il était couché, dans un coin, à l'écart de nous, vous savez que j'ai toujours eu pour vous autant d'estime que d'amitié. J'aime à croire que vous professez les mêmes sentiments à mon égard, n'est-ce pas ? Ah, quant à ça, lieutenant, oui. Eh bien alors, puisque nous sommes des amis, pourquoi n'avez-vous pas confiance en moi ? Pourquoi craignez-vous de me confier vos peines ? Ah, lieutenant, si vous saviez. Et au fait, s'écria-t-il tout à coup après un moment de silence, pourquoi donc je me méfierais de vous ? Ça m'étouffe, ce secret, ça m'étouffe. Je vous écoute, François. Recevez ma parole, que je respecterai votre confiance et que votre secret mourra en moi. Vous ferez à cet égard comme bon vous semblera, lieutenant, je n'exige rien de vous. S'il vous paraît juste que je doive être puni de ma faute par le mépris de tout le monde, eh bien, vous raconterez mon malheur à qui voudra l'entendre. Sinon, enfin, ça sera comme vous voudrez. Combalot, après avoir prononcé ces paroles avec une vivacité qui me fit craindre un instant que les privations et les souffrances n'eussent altéré sa raison, garda un moment le silence, puis il reprit enfin, en baissant la voix, « Lieutenant, savez-vous pourquoi la Doris a chaviré ? Pourquoi nos pauvres amis sont morts sur le radeau, et nous, nous nous trouvons à présent ici sous le coup d'un désagrément ? Le savez-vous ? Ces tristes événements ont eu lieu parce qu'ils étaient écrits dans notre destinée. Du tout, lieutenant, voilà qui vous trompe. Tout cela est la faute de Combalot. Ta faute, François, es-tu fou ? Non, lieutenant, j'ai toute ma raison. Écoutez-moi. » Le matelot s'arrêta de nouveau, puis se penchant tout contre mon oreille, il reprit à voix si basse qu'à un pas de nous, on n'eût pu l'entendre. Savez-vous, quand la Doris a été surprise par le grain blanc et a chaviré, qui est-ce qui était à la barre ? C'était moi, lieutenant. Or, voulez-vous que je vous dise pourquoi nous avons chaviré ? Parce que, surpris par la rapidité du grain, et craignant pour la sûreté du navire, j'ai oublié, dans mon empressement, la malheureuse invention du capitaine par rapport à la barre du gouvernail, et qu'au lieu de la mettre au vent pour forcer la Doris à prendre vent sous vergue, je l'ai mise dessous. Le fait est, François, que c'est sans nul doute à cette méprise qu'il faut attribuer la perte de notre pauvre brig. Que voulez-vous ? La faute en est non à vous qui, dans votre empressement de bien faire, avez suivi vos habitudes et perdu la mémoire, mais bien au capitaine, qui a eu le plus grand tort en faisant monter la barre du gouvernail, de façon que les timoniers dussent la manœuvrer à l'inverse de ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Quoi ? Lieutenant, vous croyez que le capitaine est plus coupable que moi ? Mais tu ne l'es pas du tout, je te le répète, mon pauvre Combalot. Vous parlez de sincérité, là, la main sur le cœur ? Comme tu dis, de sincérité, la main sur le cœur. Ah, lieutenant, s'écria le matelot en élevant sa voix, vous me faites un bien, vous permettez ? Combalot, sans attendre ma réponse, jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa à m'étouffer. Je sentis une larme mouiller ma joue. C'était probablement la première que le rude matelot eût versée de sa vie. « Parbleu, lieutenant, » reprit-il après que son émotion se fût un peu calmée. « Faut avouer que j'ai joliment été jobard, puisque je n'étais pas coupable, de me laisser d'abord estropier la jambe et d'abandonner ensuite ce matin ma part de riz. À propos, tu m'y fais penser ? Tu ne nous as pas encore appris comment tu as été blessé. » Ah, bien ingénument, lieutenant, bien bêtement, par un requin. On tomba à la mer, sans doute. Du tout, sans quitter le radeau. Ah, Dieu, j'ai-t-y été fou. Après tout, lieutenant, comment aurais-je pu faire autrement ? Je me croyais coupable. Ma foi, je ne comprends rien à ce que tu me dis là. Nous avons malheureusement du temps devant nous, rien ne nous presse. Explique-toi plus clairement. Voilà le fait. Nous étions depuis 5 jours sur le radeau, et nous n'avions pas mangé depuis 4, lorsque le maître charpentier Martin me dit comme ça, en me montrant un des petits requins qui nous suivait, attiré par les cadavres que nous avions jetés les jours précédents à la mer. « Combalot, mon vieux, nous aurions dû conserver un ou deux des moricots trépassés, afin de nous en servir d'appât pour les requins. J'ai justement ici un harpon. »« Tiens, » que je lui réponds, « c'est une idée. » Voyons voir s'ils ne pourront pas remplacer les moricots. Or, justement, au même instant, voilà un coquin de petits requins qui frise le radeau avec ses nageoires. Va chercher ton harpon, que je dis tout bas à Martin, et dépêche-toi. Alors moi, je me fais le raisonnement suivant. Combalot, tu es... Si tu n'avais pas mis la barre dessous, tous ces pauvres gens ne seraient pas à cette heure à tirer la langue. Ce qui est fait, c'est juste, mais ça ne t'empêche pas de tâcher de réparer un peu ton crime. Or donc, si Martin parvient à harponner ce requin, ça leur mettra un fameux morceau sous la dent, et ça les sauvera peut-être. faut donc absolument prendre ce gredin-là. Quant à toi, mon ami Comballeau, si tu es un peu endommagé, car j'avais déjà mon idée, eh bien, tu n'auras que ce que tu mérites. Ça t'apprendra une autre fois à mettre la barre au vent et non pas au-dessous. Or, j'achevais de me faire ce raisonnement lorsque maître Martin revint avec son harpon. Le requin faisait toujours la planche le long du radeau. « Eh bien, comme dit le charpentier, voilà la mécanique, ou quel appât ?»« L'appât, mon vieux, que je lui réponds, c'est moi. »« Dame, je sais bien que je suis pas d'un fameux embonpoint, mais ça n'y fait rien. Je connais les requins, ils sont plus gloutons que délicats, tout leur est bon. Combien de fois n'ont-ils pas payé une chemise, une veste, un pantalon, que l'on a fallu à la mer pour les nettoyer ?» Au total, je vaux encore bien, sans me vanter, une veste ou un pantalon. Oh bah, que me répond Martin, tu vas te jeter à l'eau. C'est d'un bon camarade, je t'en remercie. Me jeter à l'eau, non, non, vieux, je vais y laisser traîner mes jambes, ça suffira. Quant à toi, tâche de bien viser, et ne me laisse pas trop endommager. Aussitôt dit, aussitôt fait, je me cramponne au radeau, et je laisse mon corps surnager à moitié sur la mer. Ah mon Dieu, il n'y a pas 2 minutes que je prenais ce bain, lorsque mon requin se rapproche sournoisement de moi, se retourne sur le côté et ouvre une mâchoire. Ah, mes lieutenants, une mâchoire comme un four! Es-tu le courage de rester immobile? Dis-je à Comballeau en l'interrompant. Fallait bien, lieutenant. Vous comprenez que si j'avais bougé, cela eût effrayé le requin, et qu'il nous eût faussé compagnie, ce qui n'était pas mon affaire. Je le vois donc, dis-je, qui se retourne et qui se dispose à me baffrer les mollets. J'avais bien envie de crier à Martin de lui lancer le harpon, mais je me retins. Ce ne fut seulement qu'en sentant les dents du monstre m'égratigner que je poussai un tout petit juron. Au même instant, Martin venait de lancer son harpon. Mais malheur, la peau de ce damné requin était si dure que le fer glissa dessus sans y entrer, et que le gredin s'enfuit au plus vite en emportant avec lui la moitié d'un de mes mollets. Voilà pourquoi, lieutenant, je boite un peu aujourd'hui. Le récit de cette action que François Comballeau me racontait simplement, sans y attacher la moindre importance, et sans se douter même de tout ce qu'elle avait d'héroïque, me causa une profonde émotion. « François, lui dis-je en lui serrant la main, jamais plus noble cœur que le vôtre n'a battu dans la poitrine d'un marin. C'est entre nous à la vie et à la mort. » Mon enthousiasme sembla surprendre beaucoup Comballeau, qui se contenta de me répondre. « Ainsi, lieutenant, vous croyez, en conscience ?» que je ne suis pas aussi criminel que je le croyais. Ça me fait d'autant plus de plaisir que je meurs de faim, et que je pourrai à présent prendre ma part de la première distribution de riz que l'on nous fera. » Une fois que François Comballeau fut bien assuré qu'il ne devait pas se reprocher la perte de la Doris, il redevint, malgré son état d'épuisement et ses souffrances, ce qu'il avait toujours été, c'est-à-dire un bon et joyeux garçon plein de résignation et de courage. Il sut, grâce à ses heureuses saillies, et en nous donnant l'exemple de la philosophie, remonter notre morale abattue. « Bon, mes amis, nous dit-il le second jour de notre incarcération, il ne faut encore désespérer de rien. Le yakout y regardera 2 fois avant de faire décapiter 4 gaillards aussi intéressants que nous. Que diable! Cela finirait tôt ou tard par se savoir, et nuirait énormément à son commerce d'esclaves en éloignant les négriers de Zanzibar. » Oui. Mais si le yakout sacrifie ses intérêts à sa colère, s'écria M. Liard. Eh bien, capitaine, reprit Comballeau, nous nous passerons alors le divertissement d'une peignée. Au lieu de nous laisser bêtement couper le cou, nous taperons sur tous ces fainéants-là qui ont eu l'imprudence de nous laisser les membres libres. Prétendre que nous serons vainqueurs, vous ne le croyez pas. Non, nous en recevrons au contraire notre pile. Mais au total, quand on se bat, ça vous échauffe, et l'on ne sent plus les atouts. Le quart d'heure sera moins dur à passer que vous ne vous le figurez maintenant. Et puis après tout, à quoi bon se faire tant de bile? Il est reconnu que l'on ne meurt qu'une fois. Malgré la riante perspective que nous offrait Comballeau d'un combat acharné et d'une mort sans souffrance, nous étions loin d'envisager l'avenir avec autant de résignation et de tranquillité que lui. Capitaine, dis-je à M. Liard, il nous reste encore à peu près 24 heures à vivre. Ne pourrions-nous pas, en les employant convenablement, simplifier beaucoup notre position? Comment entendez-vous cela? J'entends, capitaine, qu'il ne me semble pas impossible de défoncer cette espèce de porte-fenêtre qui ferme notre cachot et de prendre la fuite. Une évasion? Au fait, pourquoi pas? Dame, messieurs, si ça peut vous distraire, tentons la chose, dit Comballeau. Seulement, une fois dehors, que le diable m'emporte, si je sais ce que nous deviendrons. Eh bien, nous serons libres, François.
Oh, libre, capitaine, c'est une façon de parler.
Si au lieu de nous trouver dans une île, nous foulions au pied un continent, alors oui, nous pourrions conserver quelque espoir, mais enfermés comme nous le sommes, de tous les côtés par la mer. Qui sait si nous ne parviendrons pas à nous embarquer sur quelque navire européen?
Tiens, c'est vrai, je ne pensais pas à cela.
D'autant mieux qu'au moment où ces gredins d'Arabes se sont jetés sur nous, il y avait justement un petit bâtiment en vue.
Allons, à l'ouvrage.
Cette pensée d'évasion adoptée, nous nous précipitâmes vers la porte-fenêtre qui fermait l'entrée de notre donjon. Hélas, la vue de quelques verrous énormes, en fort bon état et scellés dans le mur, nous arracha un soupir de découragement et de regret.
« Eh bien quoi ? »
s'écria François. « Vous figuriez-vous bonnement que ça allait s'ouvrir tout seul, comme dans un conte de fées ?
Allons, je le répète, à l'ouvrage. »«
Mais François, regarde donc ces verrous, ils sont énormes !»«
En effet, capitaine, cette ferraille m'a l'air assez soignée. Mais au total, ça ne prouve pas, parce qu'elle est épaisse, qu'elle tienne bien solidement à la muraille. »
Qui nous empêche de gratter un peu les briques, histoire de nous aiguiser les ongles.
Parbleu, tu as raison, essayons.
Nous nous mîmes aussitôt à l'œuvre, et nous ne tardâmes pas à acquérir l'heureuse certitude qu'il nous serait, sinon facile, du moins possible de déchausser les tiges de fer qui retenaient la porte dans la muraille. Par malheur, nous ne possédions pour tout instrument et pour tout outil qu'un seul et unique couteau. Nous convînmes de ne l'employer qu'avec beaucoup de précaution afin de ne pas le briser et de travailler chacun à tour de rôle pendant environ une demi-heure. Ce fut François qui commença.
« Allons, par ici, »
dit-il à celui désigné pour le remplacer lorsque sa tâche fut finie. « À toi, à présent. Tiens, voilà le couteau. Fais bien attention à ne pas en casser la lame. » Il était à peu près 10 heures du matin lorsque nous commençâmes à attaquer la muraille. Et encore le taciturne arabe qui nous servait de geôlier venait justement de nous apporter nos maigres provisions pour jusqu'au lendemain. Nous avions toute la journée et toute la nuit devant nous. Notre entreprise devenait possible, les briques étant assez molles. À 5 heures du soir, un petit morceau de poussière qui s'élevait par terre au bas de la porte-fenêtre prouvait, comme cela était en effet vrai, que notre travail s'avançait, lorsque par malheur le capitaine Liard, à qui je venais de remettre le couteau, après m'en être servi à mon tour pendant la demi-heure convenue, brisa maladroitement la lame presque au ras du manche. Le capitaine parut si désolé de cet accident, qui après tout ne provenait peut-être que de la mauvaise qualité du couteau, que nous n'eûmes pas la force de le lui reprocher. Cependant, Dieu sait combien le désespoir que nous en éprouvions était cruel.
« Faut de la philosophie, comme vous dites, mes amis, » nous dit Comballo en rompant le premier le silence. Après tout, à quoi bon nous désoler? La lame nous reste quasi entière. Nous n'avons que faire pour travailler du manche.
Oui, mon bon François, tu as raison, s'écria M. Liard, qui, prenant la lame brisée, se mit à creuser la brique avec tant de zèle, pour ne pas dire tant de fureur, qu'il eut bientôt les mains en sang et qu'il dut s'arrêter. Malgré la difficulté que nous présentait la continuation de notre travail, nous le reprîmes cependant et le poursuivîmes sans relâche jusqu'au lendemain matin. Le bruit seul des verrous que l'on tirait en dehors nous le fit cesser. C'était notre geôlier qui entrait. Nous remarquâmes qu'il ne nous apportait pas de provisions.
« Chien d'infidèle !» nous dit-il. « L'illustre Yakoud m'envoie vous demander si vous êtes en mesure de lui payer les 5 000 piastres exigées pour votre rançon. »«
Yakoud sait bien, » répondit le capitaine, « que nous sommes de malheureux naufragés et que par conséquent nous ne possédons pas même une pièce de menu-monnaie. »«
Très bien !»
s'écria l'arabe en ne pouvant dissimuler la joie que lui causa cette réponse. « Dieu est grand, et Mahomet est son prophète. Dans une heure, on vous coupera le cou. » Après avoir prononcé cette phrase d'un air joyeux, l'arabe se retourna vers la porte pour s'en aller. Mais Comballo lui barra le passage. « Que me veux-tu » demanda-t-il au matelot.
« Ton poignet en otage, canaille !»
s'écria le brave François, qui, oubliant sa blessure et sa faiblesse, se jeta sur l'envoyé de Yakout et le saisit à bras-le-corps. « Ma foi !» Le temps pour réfléchir nous manquant, nous n'avions naturellement qu'un seul parti à prendre, seconder et aider François. Ce fut ce que nous fîmes. En moins de temps encore que je n'en mets à raconter le fait, l'habitant de Zanzibar tomba terrassé à nos pieds.
« Tenez ferme !» nous dit François. « Je me charge de l'arrimage. »
Notre brave compagnon s'empressa de retirer le turban de l'arabe.
puis le dépliant avec promptitude et s'en servant comme d'un cordage, il attacha solidement le représentant de Yakout à partir des yeux jusqu'aux pieds, ainsi que l'on arrange les carottes de tabac. « Voilà qui me semble assez proprement ficelé, » dit-il avec un air de parfait contentement lorsque sa besogne fut achevée. « À présent, cher ami de mon cœur, range ton frein et rage tout à ton aise, je te le permets. » Cette action, je le répète, s'était passée si rapidement que nous avions agi sans réfléchir. Ce ne fut qu'après notre triomphe que nous commençâmes à nous demander si nous ne venions pas de commettre une imprudence irréparable et dont les conséquences pourraient être terribles pour nous. « Ce qui est fait n'est plus à discuter, » s'écria François. « Et puis, où voyez-vous le mal? En quoi cette plaisanterie aggrave-t-elle notre position? D'abord, elle nous donne des armes, et le sabre de cet arabe me semble même assez bien aiguisé. Ensuite, elle nous permet de ficher notre camp. Au total, elle peut nous faire couper le cou deux fois. « Pourvu que la plage ne soit point gardée, » dit le capitaine, qui se dirigea aussitôt vers la porte-fenêtre. « Ouvrez avec précaution et de façon que l'on ne vous aperçoive pas au dehors, » lui dis-je. Monsieur Liard, pour se conformer à ma recommandation, tirait doucement la porte-fenêtre à lui lorsque cette porte, poussée brutalement du dehors, le frappa avec violence en pleine poitrine. À peine eut-il temps de se jeter contre elle en pesant dessus de tout le poids de son corps. « On vient !» nous dit-il vivement à voix basse. « Nous sommes perdus !» Les quelques secondes qui suivirent cette exclamation furent pour nous pleines d'angoisse. Nous étions bien préparés à la mort, mais un secret espoir se mêlant à notre résignation la rendait moins puissante et l'affaiblissait. Nous ne pouvions accepter l'idée d'une défaite sans lutte et sans vengeance. « Capitaine, » dit vivement Combalot, qui dans les circonstances imprévues et critiques prenait, on a déjà dû le remarquer, presque toujours l'initiative de la parole ou de l'action, « Capitaine, retirez-vous et laissez ouvrir cette porte !» Nos ennemis ne pouvons nous attaquer qu'un à un par cet étroit passage, il nous sera toujours plus facile de nous défendre ici qu'en rase campagne. L'important pour nous est de gagner du temps et de vendre chèrement notre vie. » Monsieur Liard, soit que le raisonnement de François lui parut logique, soit que la pression exercée du dehors fût au-dessus de ses forces, se jeta vivement de côté. Aussitôt la porte-fenêtre s'ouvrit avec bruit en battant la muraille, et un arabe, celui qui la poussait, entraîné par son élan, vint rouler à nos pieds. « Et de deux !» s'écria Combalot, qui se précipita vivement sur le nouveau venu, avant que celui-ci eût pu se relever. Que l'on juge de notre surprise, car quant à moi je renonce à la peindre, lorsqu'au même instant nous entendîmes l'arabe s'écrier « Ah ça, François, pas de bêtises, vous me faites mal !» Cet arabe n'était autre que le novice Fignolet. La stupéfaction que nous causa cette apparition si inattendue fut telle que nous restâmes à nous regarder sans prononcer une parole. Nous n'étions pas bien assurés d'être éveillés, et ce fut l'illustre Fignolet qui le premier rompit le silence. « Capitaine, » dit-il en s'adressant à M. Liard, « je vous demande bien des excuses d'avoir poussé si fort, mais, comme au total c'est moi qui suis tombé, ce qui n'a pas dû vous faire grand mal, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. »« T'en vouloir, mon ami ?» s'écria M. Liard, qui, oubliant sa dignité et sortant de sa morgue habituelle, serra le novice dans ses bras. « T'en vouloir lorsque tu t'exposes pour nous, lorsque tu joues volontairement ta tête pour nous sauver ?»« Le fait est, capitaine, que si j'étais pigé en ce moment, il pourrait m'en cuire. »« Quant à jouer volontairement ma tête, » ajouta Fignolet, en rougissant d'un air modeste, « je ne voudrais pas, capitaine, vous faire avaler cette craque-là, d'autant mieux que tôt ou tard vous sauriez la vérité. »« Bouf. « Je suis ici, c'est vrai, mais c'est pas ma faute. »« Comment ce n'est pas ta faute, explique-toi. »« Ça ne sera pas long, capitaine. »« Un mot, auparavant. Ne sommes-nous pas exposés pour le moment à quelques grands malheurs ? » ?»« Et ne vaudrait-il pas mieux commencer d'abord par jouer des jambes, quitte à s'expliquer ensuite ?» dit François en interrompant le novice. « Il n'y a pas de danger pour la minute, » répondit Fignolet d'un air impertinent. « Je réponds de vous. »« Alors parle, petit, nous t'écoutons, » dit Combalot. « Voici la chose, » reprit Fignolet en arrangeant son turban qui s'était déplié dans sa chute. « Vous savez ou vous ne savez pas, peu importe. Car qui diable aurait songé, un pauvre novice comme moi, que lorsque vous fûtes empoigné, j'étais occupé à dénicher des œufs de tortue, ce qui est une chose crânement bonne tout de même. Bon, que je me dis, mes provisions de ce matin ne serviront pas à grand-chose à ces messieurs. Je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de les consommer moi-même. » Car si je les garde plus longtemps, Elles pourraient se gâter. Eh bien, c'est bon, on va les consommer. Je me cache alors au milieu d'un pâté de rochers, et une fois l'abri, je me mets à avaler mes œufs. J'en avale, ça ne finissait plus. J'en étais à je ne sais plus quelle douzaine, lorsque tout à coup j'entends plusieurs personnes qui causaient entre elles. J'écoute. Ah bah, v'là une chance, on parle français. C'était sans doute des matelots appartenant au navire que nous avions vu courant vers la terre, dis-je en interrompant l'intéressant récit de Fignolet. Oui, lieutenant. Je ne fais ni une ni deux, je sors de ma cachette et je cours à leur rencontre en pensant avec bonheur que je vais enfin remanger de la viande et des biscuits.
Et de quel équipage faisaient partie ces hommes? Dit M. Liard.
Du corsaire le Tigre du Bengale, capitaine Cousinerie.
Comment? Le capitaine Cousinerie est en ce moment à Zanzibar, m'écriai-je.
Ah, mes amis, nous sommes sauvés. Vous avez tous entendu parler de Cousinerie, mais moi, je le connais personnellement, car j'ai servi sous ses ordres en qualité de lieutenant à bord du Mathurin, qui fut envoyé dans le temps à Bombetoc. C'est un dur à cuire, solide au poste, bon enfant, et qui n'a pas froid aux yeux. Il ne nous abandonnera pas.
C'est-à-dire, lieutenant, reprit Fignolet, qu'il s'est joliment occupé de nous depuis hier. Il a déjà rendu deux visites au gouverneur et m'a fait déguiser en Osmanli.
Ah bah, cette invention n'est donc pas de Fignolet?
Non, capitaine, c'est M. Cousinerie qui en est l'auteur,
reprit le novice avec un soupir. Il m'a fait avant-hier endosser ce costume en m'ordonnant de rôder sur la plage pour tâcher de découvrir ce que vous étiez tous devenus.
Enfin, n'importe. Si l'idée n'est pas de toi, du moins, n'as-tu pas reculé devant son exécution?
Capitaine, murmura Fignolet après un moment d'indécision, vous êtes bien bon de penser cela de moi. Mais ce n'est pas ma faute si je n'ai pas reculé. Monsieur Cousinerie, en me voyant hésiter, me dit que si je ne me conformais pas à son ordre, il me ferait flanquer des coups de corde jusqu'à la disparition totale de ma peau. C'est là le seul motif qui m'a décidé à tenter l'entreprise. Après tout, je ne m'en repens plus puisque j'ai réussi.
Ça ne fait rien, Fignolet. Nous ne t'en sommes pas moins reconnaissants pour cela. Mais dis-moi, comment tu fais pour pénétrer jusqu'ici?
C'est pas malin, capitaine. J'appris ce matin d'un renégat, un de vos anciens courtiers d'ébène, que vous étiez enfermé dans cette tour, et je me suis mis à faire le quart sur la plage qui est déserte en ce moment, vu que tout le monde est à la ville où il y a du vilain.
Et tout à l'heure, en voyant entrer ici cet arabe que Combalot a si bien garrotté, tu l'as suivi.
C'est cela même, capitaine, et me voilà.
Eh bien, mes amis, reprit M. Liard en se tournant vers nous, que devons-nous faire à présent?
Si vous voulez, capitaine, que j'aille avertir M. Cousinerie, qui est en ce moment en visite, toujours par rapport à vous, chez le gouverneur, que je vous ai parlé, je viendrai ensuite vous rapporter sa réponse.
« Cousinerie est chez le gouverneur ? » m'écriai-je. « Et a-t-il quelques hommes de son équipage avec lui ?»«
Pardi, lieutenant. » »« Vous figurez-vous bonnement qu'il se serait amusé à descendre à terre tout seul ? Il est accompagné de 25 matelots armés jusqu'aux dents.
25 et 5 que nous sommes ici, y compris ce singe de Fignolet, ça fait 30. » s'écria Combalot. « Mes amis, en avant !»
Combalot, malgré ses béquilles, s'élança vivement vers la porte après avoir prononcé ces paroles et sortit le premier. Nous ne trouvâmes, par bonheur, personne sur notre chemin. En 10 minutes, nous arrivâmes devant le palais du gouverneur Yakout. Une foule assez nombreuse d'Arabes stationnait devant ce palais, qui, soit dit en passant, était tout simplement une grande maison d'une assez belle apparence. Quoique notre arrivée produisît une certaine émotion parmi la foule, personne ne nous adressa ni une provocation ni une injure, et il nous fut permis de pénétrer librement dans la salle d'audience où se tenait le gouverneur.